Matt Foxys sont avec nous, Lucas, Ellie et Arnaud. Bonjour.
Salut à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Ce soir, vous jouez à 19h au Minotaur pour les Rocomotives de Vendôme.
C'est la TEF.
C'est exact, c'est totalement vrai. Ah, je pense même qu'on joue à 19h20 précisément.
19h20
Ah, c'est de la précision. Bah, on a hâte de vous voir à ce moment-là.
Et on a hâte de jouer à fond.
Ah, trop cool. Pour votre dernier album, donc c'est un album qui s'appelle A Shame, qui est sorti en avril dernier. Il a d'ailleurs une belle pochette. J'ai envie que vous me parliez un peu de cette pochette-là. Est-ce que vous pourriez me la décrire un peu? Parce que
Regardez bien.
Elle est belle, hein. Alors déjà, là, c'est un artiste qui a fait ça, qui s'appelle Alexei Kondakov, un Ukrainien. Nous, on est tombé dessus, c'est toi, Lucas, qui a trouvé ça, on est tombé sur son travail un peu par hasard en diguant, parce qu'on on voulait faire une pochette d'album, il fallait bien faire quelque chose dessus. Ouais. Et on est tombé sur son travail, donc il a plein d'œuvres comme ça, où il mélange en fait, donc son idée de base, c'est de mélanger une peinture qui est plutôt ancienne, hein, c'est des vieilles peintures généralement, qui sont libres de droit ou pas, ça c'est... La juridiction, je ne la connais pas. Et après, bref, en tout cas, il découpe les personnages de cette peinture pour les intégrer dans un contexte visuel totalement moderne. Donc là, dans la pochette que vous voyez à la radio, c'est donc deux personnes, deux femmes, on suppose deux femmes, qui sont donc dans un supermarché avec un air totalement blasé. Et nous, on a bien aimé ce contraste. Il est saisissant sur le papier, le contraste. Et on a bien kiffé, on trouvait que c'était à propos. Et même le total, le visuel est cool, les couleurs sont bien.
Mais ouais, dans le visuel, il y a un vrai mash-up. Est-ce que vous diriez que votre groupe, il est un peu à l'image de ce mash-up entre, je sais pas, du vieux, du jeune
Ouais, grave. Ouais, il y a... Non, mais c'est vrai, tu as raison. Si, parce qu'on a des influences, ça va des Beatles à Idols, tu vois. Donc il y a des trucs vieux, il y a des trucs récents. Et d'ailleurs, même dans les trucs récents qu'on écoute, eux-mêmes sont influencés par des trucs plus vieux. Donc ouais, il y a quand même un truc, un entre-deux, qu'on essaie de garder cohérent quand même, pour que notre musique le soit. Mais par contre, on a des influences qui vont des années 60 à aujourd'hui.
D'accord. Pour en revenir à votre album A Shame, vous avez sorti 11 morceaux et je trouve que vous nous emmenez dans des univers qui sont tous vraiment différents. Est-ce que vous recherchiez ça au moment de l'enregistrement et de l'écriture, de faire des morceaux vraiment différents, avoir de la diversité?
Dans le process de création de l'album, c'est vrai qu'il y a eu une recherche à un moment où on commençait à avoir un certain nombre de morceaux et on se disait, ok, bah là voilà, on a un certain nombre de morceaux où c'est méga bourrin, un certain nombre de morceaux où c'est hyper, des morceaux FM, tu vois, genre on se dit souvent qu'ils pourraient passer à la radio par exemple. Et quand on s'est rendu compte qu'il y avait des univers que nous on aimait et qui manquaient, on s'est plus dirigé vers ces univers là pour pouvoir compléter la palette, quoi. En gros, il y a plusieurs choses qui nous font kiffer. On a les influences post-punk, garage, des influences plus américaines, puis des trucs un peu plus down-tempo, et on voulait que tout transparaisse dans l'album. Donc on a fait en sorte d'avoir un petit peu de toutes ces ambiances-là, ouais, carrément.
Ouais, des sons lourds, puissants, plus intimistes par moment. Ça permet de faire des pauses aussi pendant les concerts, quoi, parce que sinon ça envoie une grosse énergie pendant tout le long. Faut retenir le public qui pourrait déborder sur scène. Faut se faire une petite pause aussi, c'est assez pratique quand vous jouez ça.
Ouais. Bah, c'est bien. Et puis en plus, c'est un truc qu'on avait peut-être pas assez fait avant dans la manière qu'on avait de composer. Et puis là, c'est sûr, sur un set de 1 heure en concert, c'est toujours bien de se poser. Hein, sinon, c'est violent, quoi, pour les oreilles. Même nous. Non, nous, ça va, en fait. mais en vrai, je pense que c'était un peu grandir que de se mettre... passer une petite difficulté, c'est un peu un obstacle au début de prendre le risque de... Enfin, être bourrin, je pense que n'importe quel groupe peut le faire, avec plus ou moins d'élégance, sans doute, mais c'est toujours un obstacle quand on est habitué à jouer un peu fort et jouer de la violence, du rock, tout ça, c'est cool. Mais c'est bien... pas rester dans une petite zone de confort, et donc on a voulu se mouiller un peu. Je pense écouter et s'écouter un peu plus sur des influences qui étaient un peu plus lointaines et les mettre en action, à l'exercice, en composant des nouveaux trucs qui permettent des petites pauses dans un set un peu violent. Ouais.
Et avoir le temps de composer ça, de réfléchir à tout ça, ce qui n'était pas forcément le cas sur la sortie après le premier disque, où ça tournait quand même pas mal, ça enchaînait des dates. Là, vous êtes pris le temps.
Ouais.
Vous avez aussi une synchro avec l'espace mondial au niveau temps pour pouvoir travailler ça justement et aller chercher ailleurs.
Ouais. C'est vrai que le monde entier nous a donné le temps de composer le deuxième. Quoi. Ils ont fait ok, c'est pour vous les gars. Non mais c'est vraiment ça. On a été contraints de se poser et la contrainte a créé un sentiment de sécurité et un sentiment de bien-être au moment de composer, parce qu'on n'avait pas besoin d'aller faire des concerts à l'autre bout de la France et rentrer claqué et avoir deux jours pour s'en remettre et tout ça. Donc le Covid nous a fait prendre conscience qu'en fait, dans une vie de groupe, il y a la vie de tournée et la vie d'écriture. Et les deux, c'est mieux si elles sont vraiment séparées. Ouais, pour nous, c'est... Mais je pense qu'il voilà, y a besoin de se poser, de prendre le temps d'écrire et de ne pas être pollué par des contraintes. Même si, évidemment, que la scène, c'est pas une contrainte, au contraire, mais... Mais là, ça nous a vraiment donné de l'espace et du temps, et comme à tout le monde pendant les confinements et tout, mais c'était assez pertinent pour écrire de la musique, ouais.
Et justement, comme vous avez écrit pendant le Covid, que vous avez sorti votre album en avril dernier, est-ce que vous avez pu faire au moins une release party de votre album, ce genre de choses ou...
On a fait une release party, mais un petit peu en retard, ouais. On l'a fait le 11 septembre au Ferrailleur à Nantes, pour un album sorti le 30 avril, donc ça a mis un petit peu de temps. Bah, c'était des questions qu'on se posait en fait. On regardait un peu ce que faisaient les autres groupes, les groupes de gens qu'on connaît, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont sorti, bah, comme nous on l'a fait, même s'il n'y avait pas de concert. Il y en a qui ont repoussé leur sortie d'album jusqu'à la reprise des concerts pour pouvoir faire une release et le défendre en temps réel. Je pense pas qu'il y avait forcément une bonne et une mauvaise formule, mais ouais, fallait un petit peu une mauvaise situation d'ailleurs, avant toutes les rencontres. Mais en tout cas, on a choisi de le sortir parce qu'on avait besoin de montrer ce travail-là. Enfin, la dynamique de voilà du mix, du mastering, de la préparation des visuels, de la presse, dirigée vers ça, quelle que soit la situation sanitaire. Donc on a sorti ça le 30 avril et on n'a pas tourné avant quelques timides concerts en juin, juillet et avant la tournée qui a commencé vraiment que là début septembre.
Pour parler de Shame et des textes, vous évoquez souvent dans vos textes de cet album-là le changement et le renouveau. Est-ce que vous étiez dans une période de changement et voire de renouveau pour votre groupe au cours de l'enregistrement et de l'écriture ?
Alors oui, déjà de manière très factuelle, c'est que Arnaud est arrivé pendant l'écriture de l'album, donc il y avait des changements en interne. Et par contre, au niveau de ce qu'on raconte dans nos textes, oui, enfin des prises de conscience. Mmh. Sur nos rôles et nos positions dans notre société actuelle, qu'on finalement guidait sans trop qu'on s'en aperçoive les écritures de textes. Et c'est en discutant ensemble qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses dans lesquelles on se retrouvait vachement, de déconstruire tout un tas de trucs. Et là, on a pas mal changé pendant le processus d'écriture là-dessus. On est encore toujours en train d'apprendre et de changer et d'essayer d'être des meilleures personnes. Mais ça a quand même nourri le processus de création et ça a nourri les textes, ces changements-là, à ce moment-là, je crois.
Vous avez une influence de la ville un peu sur votre attitude, justement. Je pense à Nantes, on connaît Nantes Révoltée, par exemple, qui est une structure très engagée. On sait que ça peut avoir de l'influence sur les artistes. Cette atmosphère-là, dans une ville, ça agit sur vous ?
Un peu tout. Nantes Révoltée, tu as raison. Il y a quand même, je pense que Nantes, c'est quand même une ville où il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de revendications un peu partout. Après, nous, notre credo, c'est pas de revendiquer plein de choses. Par contre, être d'accord avec plein de choses, ça, oui. Mmh. Et à Nantes, oui, hein, y a un melting pot de gens et de qui ont des choses à dire et des choses à faire entendre. Et je pense que chacun à titre... Alors, Arnaud vient d'Angers, exactement. Donc, je vais parler pour Lucas et moi, en tout cas. Nous, je pense qu'on côtoie tous les jours des gens qu'on n'avait pas encore rencontrés, qui ont des nouvelles choses à raconter. Et ouais, je pense que ça fait partie à fond de l'espèce de déconstruction. Je parle du mot déconstruction parce qu'il est hyper important. Se laisser porter un peu en regardant, en écoutant, sans rien juger, puis après voir comment on a envie de participer à ça et tout. Nous, notre forme de participation, c'est d'accepter de se poser les questions déjà entre nous trois, ouais. En discuter, et puis après d'accepter de poser la question sous forme de c'est pas une réponse, mais c'est pas une question non plus qu'on met dans les textes. C'est...
Mais je crois que c'est en parler entre nous trois qui a fait qu'on s'est dit, ok, on est légitime à en parler parce qu'entre nous, on se pose ces questions-là. Et c'est quand même pas évident de prendre position sans avoir l'air un poil opportuniste à des moments comme les nôtres où, en fait, on peut très vite être féministe et oui, sur le papier, ça fait joli. Mais le truc, c'est que nous, en tout cas, dans notre démarche, on avait ce truc de se dire, ok, on se sent légitime à parler de certains trucs. On ne se sent pas légitime à parler de féminisme de manière hyper frontale. Par contre, de parler de déconstruction de la masculinité et de parler de la déconstruction du patriarcat et tout ça, ça nous semblait hyper important parce que ça nous touchait directement. Et on s'est dit qu'il y avait des gens qui pouvaient se retrouver là-dedans et que c'était hyper intéressant et important, sans s'approprier la parole des autres.
Typiquement, déconstruire le patriarcat et se remettre en question... Essayer de se déconstruire, c'est le sujet de votre titre Gender Eraser.
Ouais.
Et qui est, vous avez fait un clip de ce titre-là. Alors le clip, vous avez vos visages, ils sont très déformés, on en prend plein les yeux, c'est un peu... C'est déconseillé pour les personnes épileptiques, d'ailleurs.
On l'a dit au début, ouais.
C'est vrai.
Comment est-ce que ce clip-là, il arrive à soutenir le propos du titre qui est assez fort
Bah, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, au début, pour ce clip, qui a quand même des paroles avec un peu de poids, enfin, avec du sens, soit il y a moyen de se gourer, en fait. Il y a moyen de se planter en faisant un clip comme ça, et d'aller faire dans un truc trop cliché, venir parler à la place d'eux, au lieu de parler d'eux et tout. Et finalement, en fait, il y avait une petite solution qui était vraiment très simple. Donc, on a pris notre caméra, on était dimanche matin chez moi à Nantes. On a pris la caméra, on était avec nos vieilles gueules toutes pourries du dimanche matin. Et puis, en fait, juste en déformant nos gueules, en fait, on se rendait compte que je sais pas, c'est des choses qui bougent. Tu peux être n'importe qui. Sur le clip, on est n'importe quoi aussi, pas juste n'importe qui. Moi, je suis une forêt à un moment. Ça se voit pas, mais vraiment, non, c'est toi la forêt.
Moi, je suis une forêt, ouais.
Et du coup, non, mais du coup le clip il finissait par coller au propos dans le sens où où il y a rien qui est fixé et on peut être ce qu'on veut et faire un peu ce qu'on veut. Et là, en plus, on a travaillé avec un mec, on le place, Clément Hervaux, qui a fait toute la vidéo et qui nous a détruit la tronche. Parce que nous, on a vraiment fait un truc simple à la base. Hein. Ouais, le clip, ouais. se mettre une caméra en face de la tronche et faire juste. Rien d'autre que dire les paroles.
Manger des sandwichs.
Manger des sandwichs.
Oui, voilà. Oui, il y a de la nourriture un petit peu.
Ouais, ouais, ouais.
Non, et après, Clément, il a fait un gros taf pour rendre ça vomitif et épileptique à fond. Pas facile ce mot épileptique. Hein. Et voilà.
D'accord, très bien. Pour en revenir aussi à votre nom de groupe, Mad Foxes, c'était déjà le nom d'un vieux nanar d'horreur des années 80 au moment de créer votre. Votre groupe, est-ce que c'est de là que vient votre inspiration ?
Non. Très honnêtement, ça nous a bien cassé les... Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, on a compris que c'était un nanar, mais surtout ce qu'on a vu quand on a regardé Mad Foxes sur Google Images, au bout d'un moment, on s'est dit « Ah putain, c'est cool, peut-être on commence à avoir des images de nous et tout. » Et là, t'arrives et t'as des drapeaux nazis, des bikers qui tuent des meufs et tout. Et on a fait genre « Non !» Putain. Et
Vous parliez engagement dans vos chansons.
C'est ça, en fait. Mais on n'a pas dit dans quel sens. Non, mais en réalité, ça nous avait bien fait chier au début. Et après, on s'est dit « Bah écoute, déjà, c'est un nanar, le film. Voilà, il y a... Je sais pas. Je connais pas le film, j'ai pas vu le propos, mais je veux dire, Inglourious Basterds, si tu tapes le nom aussi sur Google Images, tu vas voir des drapeaux nazis. Parce que ça parle de ça. Mais toujours est-il que, on s'est dit tant pis. En fait, ça faisait déjà trop longtemps qu'on avait le nom de groupe. Et avec du recul, on aurait dû s'appeler Fat Moxes, en fait. Inverser les deux premières lettres, ça aurait été incroyable, mais tant pis.
Ouais, et puis ça aurait évité la confusion avec les autres groupes de la Loire,
oui.
Qui s'appellent tous Fox en ce moment, du côté de Chinon Tours, les Stuff Foxes, de ouais. Saumur, Angers, les White Fox, et hop, et tu débouches à la Loire, boum, encore des renards, partout, ouais. Renards partout.
Ça, on le savait pas non plus à l'époque, d'ailleurs.
Ouais, du coup, que pense Brigitte Bardot de votre album?
Que du bien, j'espère.
Je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Hein.
Brigitte, on la voit plus trop en ce moment, elle est un peu fatiguée.
Bridge, ouais, non, je sais pas ce qu'elle en pense.
Non, on avait un renard empaillé à un moment qu'on emmenait avec nous sur les concerts.
Petite mascotte.
Ouais, on a arrêté déjà parce qu'il perdait la santé. c'est pas facile. Hein, un animal vivant, c'est pas facile à emmener. Un animal mort, c'est pas plus simple en fait. Ça prend de la place et ça bouge pas beaucoup quand on lui dit de bouger. Et en plus, après, sans blague, peut-être que c'est pas toujours bien d'avoir un animal mort présenté sur scène. C'est un peu touchy des fois, je pense.
Ça plaît pas aux véganes, tout ça.
Ouais, c'est clair.
Alors, vous serez ce soir en concert à 19h et quelque chose, 19h10, 19h20, au Minotaur.
Parfait pour chauffer cette première soirée au Minotaur. Hein. Et parfait pour vous, pour profiter de la soirée aussi.
Ah, bien sûr.
Merci beaucoup, les Mad Foxes, d'être venus sur notre plateau. On écoute Home, tiré de votre album. We'll be right back.
the shadow of tender eyes.